des vertueux. C'est à coups de tonnerre et de feux d'artifice céleste qu'il faut parler au sens flasque et endormi. Mais la voix de la beauté parle bas. Elle ne s'insinue que dans les âmes les plus éveillées. Aujourd'hui, mon bouclier s'est mis à vibrer doucement et à rire. C'était le frisson et le rire sacré de la beauté. C'est de vous, ô vertueux, que ma beauté riait aujourd'hui. Et ainsi m'arrivait sa voix. Ils veulent encore être payés. Vous voulez encore être payés, ô vertueux. Vous voulez être récompensés de votre vertu. Avoir le ciel en place de la terre et l'éternité en place de votre aujourd'hui. Et maintenant vous m'en voulez de ce que j'enseigne qu'il n'y a ni rétributeur ni comptable. Et en vérité, je n'enseigne même pas que la vertu soit sa propre récompense. Hélas, c'est là mon chagrin. Astucieusement, on a introduit au fond des choses la récompense et le châtiment. Et même encore au fond de vos âmes, ô vertueux. Mais, pareil au boutoir de sanglier, ma parole doit déchirer le fond de vos âmes. Je veux être pour vous un soc de charrue. Que tous les secrets de votre âme paraissent à la lumière. Et quand vous serez étendu au soleil, dépouillé et brisé, votre mensonge aussi sera séparé de votre vérité. Car ceci est votre vérité. Vous êtes trop propre pour la souillure de ces mots « vengeance, punition, récompense, représailles ». Vous aimez votre vertu comme la mère aime son enfant. Mais quand donc entendit-on qu'une mère voulut être payée de son amour ? Votre vertu, c'est votre moi qui vous est le plus cher. Vous avez en vous le désir de l'anneau. C'est pour revenir sur lui-même que tout anneau s'annèle et se tord. Et toute œuvre de votre vertu est semblable à une étoile qui s'éteint. Sa lumière est encore en route, parcourant sa voie stellaire. Et quand ne sera-t-elle plus en route ? Ainsi, la lumière de votre vertu est encore en route, même quand l'œuvre est accomplie. Que l'œuvre soit donc oubliée et morte. Son rayon de lumière persiste toujours. Que votre vertu soit identique à votre moi et non pas quelque chose d'étranger, un épiderme et un manteau. Voilà la vérité sur le fond de votre âme, ô vertueux. Mais il y en a certains aussi pour qui la vertu s'appelle un spasme sous le coup de fouet. Et vous avez trop écouté les cris de ceux-là. Et il en est d'autres qui appellent vertu la paresse de leur vice. Et quand une fois leur haine et leur jalousie s'étirent les membres, leur justice se réveille et se frotte les yeux pleins de sommeil. Et il en est d'autres qui sont attirés vers en bas. Leurs démons les attirent. Mais plus ils enfoncent, plus ils ont l'œil brillant et plus leurs désirs convoitent leur Dieu. Hélas, le cri de cela parvint aussi à votre oreille, ô vertueux, le cri de ceux qui disent « Tout ce que je ne suis pas est pour moi Dieu et vertu ». Et il en est d'autres qui s'avancent lourdement et en grinçant comme des chariots qui portent des pierres vers la vallée. Ils parlent beaucoup de dignité et de vertu. C'est leur frein qu'ils appellent vertu. Et il en est d'autres qui sont semblables à des pendules que l'on remonte. Ils font leur tic-tac et ils veulent que l'on appelle ce tic-tac vertu. En vérité, ceci m'amuse. Partout où je rencontrerai de ces pendules, je leur en remontrerai avec mon ironie. Et il faudra bien qu'elles se mettent à dodiner. Et d'autres sont fiers d'une parcelle de justice, et à cause de cette parcelle, ils blasphèment toutes choses, de sorte que le monde se noie dans leur injustice. Hélas, quelle nausée quand le mot vertu leur coule de la bouche, et quand ils disent « je suis juste », cela sonne toujours comme « je suis vengé ». Ils veulent crever les yeux de leurs ennemis avec leur vertu, et ils ne s'élèvent que pour abaisser les autres. Il en est d'autres encore qui croupissent dans leur marécage et qui, tapis parmi les roseaux, se mettent à dire « vertu, c'est se tenir tranquille dans le marécage ». Nous ne mordons personne et nous évitons celui qui veut mordre. Et en toute chose, nous sommes de la vie que l'on nous donne. Et il en est d'autres encore qui aiment les gestes et qui pensent « la vertu est une sorte de geste ». Leurs genoux sont toujours prosternés et leurs mains se joignent à la louange de la vertu. Mais leur cœur ne sait rien de cela. Il en est d'autres de nouveau qui croient qu'il est vertueux de dire « la vertu est nécessaire ». Mais au fond, ils ne croient qu'une seule chose, c'est que la police est nécessaire. Et quelques autres qui ne savent voir ce qu'il y a d'élevé dans l'homme parlent de vertu quand ils voient de trop près la bassesse de l'homme. Ainsi, ils appellent vertu leur mauvais œil. Les uns veulent être édifiés et redressés, et appellent cela de la vertu, et les autres veulent être renversés, et cela aussi ils l'appellent de la vertu. Et ainsi presque tous croient avoir quelque part à la vertu, et tous veulent pour le moins s'y connaître en bien et en mal. Mais Zarathoustra n'est pas venu pour dire à tous ces menteurs et à ces insensés « Que savez-vous de la vertu ? Que pourriez-vous savoir de la vertu ?» Il est venu, mes amis, pour que vous vous fatiguiez des vieilles paroles que vous avez apprises des menteurs et des insensés, pour que vous vous fatiguiez des mots « récompense »,« représailles »,« punition », vengeance dans la justice, pour que vous vous fatiguiez de dire « une action n'est bonne parce qu'elle est désintéressée ». Hélas, mes amis, que votre moi soit dans l'action ce que la mère est dans l'enfant, que ceci soit votre parole de vertu. Vraiment, je vous ai bien arraché sans parole et les plus chers hochets de votre vertu. Et maintenant, vous me boudez comme boudent des enfants. Ils jouaient près de la mer, et la vague est venue, emportant leurs jouets dans les profondeurs. Les voilà qui se mettent à pleurer. Mais la même vague doit leur apporter de nouveaux jouets et répandre devant eux de nouveaux coquillages bariolés. Ainsi, ils seront consolés. Et comme eux, vous aussi, mes amis, vous aurez vos consolations et de nouveaux coquillages bariolés. Ainsi parlait Zarathoustra. De la canaille. La vie est une source de joie, mais partout où la canaille vient boire, toutes les fontaines sont empoisonnées. J'aime tout ce qui est propre. Puis je ne puis voir les gueules grimaçantes et la soif des gens impurs. Ils ont jeté leur regard au fond du puits. Maintenant leur sourire odieux se reflète au fond du puits et me regarde. Ils ont empoisonné par leur concupiscence l'eau sainte. Et en appelant joie leur rêve malpropre, ils ont empoisonné même le langage. La flamme s'indigne lorsqu'ils mettent au feu leur cœur humide. l'esprit lui-même bouillonne et fume quand la canaille s'approche du feu. Le fruit devient douceâtre et blais dans leurs mains. Leur regard éventre et dessèche l'arbre fruitier. Et plus d'un de ceux qui se détournèrent de la vie ne s'est détourné que de la canaille. Il ne voulait point partager avec la canaille l'eau, la flamme et le fruit. Et plus d'un s'en fut au désert et y souffrit la soif parmi les bêtes sauvages pour ne point s'asseoir autour de la citerne en compagnie de chameliers malpropres. Et plus d'un qui arrivait un exterminateur et en coup de grêle pour les champs de blé voulait seulement pousser son pied dans la gueule de la canaille afin de lui boucher le gosier. Et ce n'est point là le morceau qui me fut le plus dur à avaler. La conviction que la vie elle-même a besoin d'inimitié, de trépas et de croix de martyr. Mais j'ai demandé un jour, et j'étouffais presque de ma question, comment la vie aurait-elle besoin de la canaille? Les fontaines empoisonnées, les feux puants, les rêves souillés, et les vers dans le pain de la vie sont-ils nécessaires? Ce n'est pas ma haine, mais mon dégoût qui dévorait ma vie. Hélas, souvent je me suis fatigué de l'esprit lorsque je trouvais que la canaille était spirituelle, elle aussi. Et j'ai tourné le dos aux dominateurs lorsque je vis ce qu'ils appellent aujourd'hui dominer, trafiquer et marchander la puissance avec la canaille. J'ai demeuré parmi les peuples étrangers de langue et les oreilles closes, afin que le langage de leur trafic et leur marchandage pour la puissance me restasse étranger. Et en me bouchant le nez, j'ai traversé, plein de découragement, le passé et l'avenir. En vérité, le passé et l'avenir sentent la populace écrivassière. Semblable à un estropié devenu sourd, aveugle et muet, tel j'ai vécu longtemps pour ne pas vivre avec la canaille du pouvoir, de la plume et de la joie. Péniblement et avec prudence, mon esprit a monté des degrés. Les aumônes de la joie furent sa consolation. La vie de l'aveugle s'écoulait appuyée sur un bâton. Que m'est-il donc arrivé? Comment me suis-je délivré du dégoût? Qui a rajeuni mes yeux? Comment me suis-je envolé vers les hauteurs où il n'y a plus de canaille assise à la fontaine? Mon dégoût lui-même m'a-t-il créé des ailes et les forces qui pressentaient les sources? En vérité, j'ai dû voler au plus haut pour retrouver la fontaine de la joie. Oh, je l'ai trouvé, mes frères. Ici, au plus haut, jaillit pour moi la fontaine de la joie. Et il y a une vie où l'on s'abreuve sans la canaille. Tu jaillis presque avec trop de violence, source de joie, et souvent tu renverses de nouveau la coupe en voulant la remplir. Il faut que j'apprenne à t'approcher plus modestement. Avec trop de violence, mon cœur afflue à ta rencontre. Mon cœur où se consume mon été, cet été court, chaud, mélancolique et bienheureux. Combien mon cœur estival désire ta fraîcheur, source de joie. Passez l'hésitante affliction de mon printemps. Passez la méchanceté de mes flocons de neige en juin. Je devins estival tout entier. Tout entier après-midi d'été, un été dans les plus grandes hauteurs, avec de froides sources et une bienheureuse tranquillité. Venez, ô mes amis, que ce calme grandisse en félicité. Car ceci est notre hauteur et notre patrie. Notre demeure est trop haute et trop escarpée pour tous les impurs et la soif des impurs. Jetez donc vos purs regards dans la source de ma joie, amis. Comment s'en troublerait-elle? Elle vous sourira avec sa pureté. Nous bâtirons notre nid sur l'arbre de l'avenir. Des aigles nous apporteront la nourriture dans leur bec à nous autres solitaires. En vérité, ce ne seront point des nourritures que les impurs pourront partager, car les impurs s'imagineraient dévorer du feu et se brûler la gueule. En vérité, ici nous ne préparons point de demeure pour les impurs. Notre bonheur semblerait glacial à leur corps et à leur esprit. Et nous voulons vivre au-dessus d'eux comme des vents forts, voisins des aigles, voisins du soleil. Ainsi vivent les vents forts. Et semblable au vent, je soufflerai un jour parmi eux. À leur esprit, je couperai la respiration avec mon esprit. Ainsi le veut mon avenir. En vérité, Zarathoustra est un vent fort pour tous les bas-fonds. Et il donne ce conseil à ses ennemis et à tous ceux qui crachent et vomissent. Gardez-vous de cracher contre le vent. Ainsi parlait Zarathoustra. Des tarentules. Regarde, voici le repère de la tarentule. Veux-tu voir la tarentule? Voici la toile qu'elle a tissée. Touche-la pour qu'elle se mette à s'agiter. Elle vient sans se faire prier, la voici. Sois la bienvenue, tarentule. Le signe qui est sur ton dos est triangulaire et noir. Et je sais aussi ce qu'il y a dans ton âme. Il y a de la vengeance dans ton âme. Partout où tu mords, il se forme une croûte noire. C'est le poison de ta vengeance qui fait tourner l'âme. C'est ainsi que je vous parle en parabole, vous qui faites tourner l'âme, prédicateur de l'égalité. Vous êtes pour moi des tarentules avides de vengeance secrète. Mais je finirai par révéler vos cachettes. C'est pourquoi je vous ris au visage, avec mon rire des hauteurs. C'est pourquoi je déchire votre toile, pour que votre colère vous fasse sortir de votre caverne de mensonges, et que votre vengeance jaillisse derrière vos paroles de justice. Car il faut que l'homme soit sauvé de la vengeance. Ceci est pour moi le pont qui mène au plus haut espoir. C'est un arc-en-ciel après de longs orages. Cependant, les tarentules veulent qu'il en soit autrement. C'est précisément ce que nous appelons justice quand le monde se remplit des orages de notre vengeance. Ainsi parlent entre elles les tarentules. Nous voulons exercer notre vengeance sur tous ceux qui ne sont pas à notre mesure et les couvrir de nos outrages. C'est ce que se jurent en leur cœur les tarentules. Et encore, volonté d'égalité. C'est ainsi que nous nommerons dorénavant la vertu. Et nous voulons élever nos cris contre tout ce qui est puissant. Prêtre de l'égalité, la tyrannique folie de votre impuissance réclame à grands cris l'égalité. Votre plus secrète concupiscence de tyran se cache derrière des paroles de vertu. Vanité aigrie, jalousie contenue. Peut-être est-ce la vanité et la jalousie de vos pères. C'est de vous que sortent ces flammes et ces folies de vengeance. Ce que le père a tué, le fils le proclame. Et souvent j'ai trouvé révélé par le fils le secret du père. Il ressemble aux enthousiastes. Pourtant, ce n'est pas le cœur qui les enflamme, mais la vengeance. Et s'ils deviennent froids et subtils, ce n'est pas l'esprit, mais l'envie qui les rend froids et subtils. Leur jalousie les conduit aussi sur le chemin des penseurs. Et ceci est le signe de leur jalousie. Ils vont toujours trop loin. si bien que leur fatigue finit par s'endormir dans la neige. Chacune de leurs plaintes a des accents de vengeance, et chacune de leurs louanges a l'air de vouloir faire mal. Pouvoir s'ériger en juge leur apparaît comme le comble du bonheur. Voici cependant le conseil que je vous donne, mes amis. Méfiez-vous de tous ceux dont l'instinct de punir est puissant. C'est une mauvaise engeance et une mauvaise race. Ils ont sur leur visage les traits du bourreau et du ratier. Méfiez-vous de tous ceux qui parlent beaucoup de leur justice. En vérité, ce n'est pas seulement le miel qui manque à leur âme. Et s'ils s'appellent eux-mêmes les bons et les justes, n'oubliez pas qu'il ne leur manque que la puissance pour être des pharisiens. Mes amis, je ne veux pas que l'on me mêle à d'autres et que l'on me confonde avec eux. Il y en a qui prêchent ma doctrine de la vie, mais ce sont en même temps des prédicateurs de l'égalité et des tarentules. Elles parlent en faveur de la vie, ces araignées venimeuses, quoiqu'elles soient accroupies dans leurs cavernes et détournées de la vie, car c'est ainsi qu'elles veulent faire mal. Elles veulent faire mal à ceux qui ont maintenant la puissance, car c'est à cela que la prédication de la mort est la plus familière. S'il en était autrement, les tarentules enseigneraient autrement, car c'est elles qui autrefois surent le mieux calomnier le monde et allumer les bûchers. C'est avec ces prédicateurs de l'égalité que je ne veux pas être mêlé et confondu, car ainsi me parle la justice. Les hommes ne sont pas égaux. Il ne faut pas non plus qu'ils le deviennent. Que serait donc mon amour du surhumain si je parlais autrement? C'est sur 1000 ponts et sur 1000 chemins qu'ils doivent se hâter vers l'avenir, et il faudra mettre entre eux toujours plus de guerre et d'inégalité. C'est ainsi que me fait parler mon grand amour. Il faut qu'ils deviennent des inventeurs de statues et de fantômes par leur inimitié. Et avec leurs statues et leurs fantômes, ils combattront entre eux le plus grand combat. Bon et mauvais, riche et pauvre, haut et bas, et tous les noms de valeurs, autant d'armes et de symboles cliquetants pour indiquer que la vie doit toujours à nouveau se surmonter elle-même. La vie veut elle-même s'élever dans les hauteurs avec des piliers et des degrés. Elle veut scruter les horizons lointains et regarder au-delà des beautés bienheureuses. C'est pourquoi il lui faut des hauteurs. Et puisqu'il faut des hauteurs, il lui faut des degrés et de l'opposition à ces degrés, l'opposition de ceux qui s'élèvent. La vie veut s'élever et, en s'élevant, elle veut se surmonter elle-même. Et voyez donc, mes amis, voici la caverne de la Tarentule. C'est ici que s'élèvent les ruines d'un vieux temple. Regardez donc avec des yeux illuminés. En vérité, celui qui assembla jadis ses pensées en un édifice de pierre dressé vers les hauteurs connaissait le secret de la vie comme le plus sage d'entre tous. Il faut que dans la beauté, il y ait encore de la lutte et de l'inégalité, et une guerre de puissance et de suprématie. C'est ce qu'il nous enseigne ici dans le symbole le plus lumineux. Ici, les voûtes et les arceaux se brisent divinement dans la lutte. La lumière et l'ombre se combattent en un divin effort. De même, avec notre certitude et notre beauté, soyons ennemis, nous aussi, mes amis. Assemblons divinement nos efforts les uns contre les autres. Malheur, voilà que j'ai été moi-même mordu par la tarentule, ma vieille ennemie. Avec sa certitude et sa beauté divine, elle m'a mordu au doigt. Il faut que l'on punisse, il faut que justice soit faite. ainsi pense-t-elle. Ce n'est pas en vain que tu chantes ici des hymnes en l'honneur de l'inimitié. Oui, elle s'est vengée. Malheur, elle va me faire tourner l'âme avec de la vengeance. Mais afin que je ne me tourne point, mes amis, liez-moi fortement à cette colonne. J'aime encore mieux être un stylite qu'un tourbillon de vengeance. En vérité, Zarathoustra n'est pas un tourbillon et une trombe. Et s'il est danseur, ce n'est pas un danseur de tarentelle. Ainsi parlait Zarathoustra. Des sages illustres. Vous avez servi le peuple et la superstition du peuple, vous tous, sages illustres. Vous n'avez pas servi la vérité. Et c'est précisément pourquoi l'on vous a honoré. Et c'est pourquoi aussi on a supporté votre incrédulité, puisqu'elle était un bon mot et un détour vers le peuple. C'est ainsi que le maître laisse faire ses esclaves, et il s'amuse de leur pétulance. Mais celui qui est haï par le peuple comme le loup par les chiens, c'est l'esprit libre, l'ennemi des entraves, celui qui n'adore pas et qui hante les forêts. Le chassé de sa cachette, c'est ce que le peuple appela toujours le sens de la justice. Et il excite encore contre l'esprit libre ses chiens les plus féroces. Car la vérité est là, puisque le peuple est là. Malheur, malheur à celui qui cherche. C'est ce que l'on a répété de tout temps. Vous vouliez donner raison à votre peuple dans sa vénération. C'est ce que vous avez appelé « volonté de vérité », ô sage célèbre. Et votre cœur s'est toujours dit « Je suis venu du peuple, c'est de là aussi que m'est venue la voix de Dieu. Endurant et rusé, pareil à l'âne, vous avez toujours intercédé pour le peuple. Et main puissant qui voulait accorder l'allure de son char au goût du peuple, attela devant ses chevaux un petit âne, un sage illustre. Et maintenant, ô sages illustres, je voudrais que vous jetiez enfin tout à fait loin de vous la peau du lion, la peau bigarrée de la bête fauve et les touffes de poils de l'explorateur, du chercheur et du conquérant. Hélas, pour apprendre à croire à votre véracité, il me faudrait vous voir briser d'abord votre volonté vénératrice. Véridique. C'est ainsi que j'appelle celui qui va dans les déserts sans Dieu et qui a brisé son cœur vénérateur. Dans le sable jaune brûlé par le soleil, il lui arrive de regarder avec envie vers les îles aux sources abondantes où, sous les sombres feuillages, la vie se repose. Mais sa soif ne le convainc pas de devenir pareil à ses satisfaits, car où il y a des oasis, il y a aussi des idoles. Affamée, violente, solitaire, sans Dieu, ainsi se veut la volonté du lion. Libre du bonheur des esclaves, délivrée des dieux et des adorations, sans épouvante et épouvantable, grande et solitaire, telle est la volonté du véridique. C'est dans le désert qu'ont toujours vécu les véridiques, les esprits libres, maîtres du désert. Mais dans les villes habitent les sages illustres et bien nourris, les bêtes de trait, car ils tirent toujours comme des ânes le chariot du peuple. Je ne leur en veux pas, non point, mais ils restent des serviteurs et des êtres attelés, même si leur attelage reluit d'or. Et souvent ils ont été de bons serviteurs, dignes de louange, car ainsi parle la vertu. S'il faut que tu sois serviteur, cherche celui à qui tes services seront le plus utiles. L'esprit et la vertu de ton maître doivent grandir parce que tu es à son service. C'est ainsi que tu grandiras toi-même avec son esprit et sa vertu. Et vraiment, sages illustres, serviteurs du peuple, vous avez vous-même grandi avec l'esprit et la vertu du peuple, et le peuple a grandi par vous. Je dis cela à votre honneur. Mais vous restez peuple, même dans vos vertus, peuple aux yeux faibles, peuple qui ne sait point ce que c'est que l'esprit. L'esprit, c'est la vie qui incise elle-même la vie. C'est par sa propre souffrance que la vie augmente son propre savoir. Le saviez-vous déjà? Et ceci est le bonheur de l'esprit, être oint par les larmes, être sacré victime de l'Holocauste. Le saviez-vous déjà? Et la cécité de l'aveugle, ses hésitations et ses tâtonnements rendront témoignage de la puissance du soleil qu'il a regardé. Le saviez-vous déjà? Il faut que ceux qui cherchent la connaissance apprennent à construire avec des montagnes. C'est peu de choses quand l'esprit déplace des montagnes. Le saviez-vous déjà? Vous ne voyez que les étincelles de l'esprit, mais vous ignorez quelle enclume est l'esprit et vous ne connaissez pas la cruauté de son marteau. En vérité, vous ne connaissez pas la fierté de l'esprit, mais vous supporteriez encore moins la modestie de l'esprit, si la modestie de l'esprit voulait parler. Et jamais encore vous n'avez pu jeter votre esprit dans des gouffres de neige. Vous n'êtes pas assez chaud pour cela. Vous ignorez donc aussi les ravissements de sa fraîcheur. Mais en toute chose, vous m'avez l'air de prendre trop de familiarité avec l'esprit, et souvent vous avez fait de la sagesse un hospice et un refuge pour de mauvais poètes. Vous n'êtes point des aigles, c'est pourquoi vous n'avez pas appris le bonheur dans l'épouvante de l'esprit. Celui qui n'est pas un oiseau ne doit pas planer sur les abîmes. Vous me semblez tiède, mais un courant d'air froid passe dans toute connaissance profonde. Glaciales sont les fontaines intérieures de l'esprit et délicieuses pour les mains chaudes de ceux qui agissent. Vous voilà devant moi, honorable et rigide, l'échine droite, ô sages illustres. Vous n'êtes pas poussé par un vent fort et une volonté vigilante. N'avez-vous jamais vu une voile passer sur la mer, tremblante, arrondie et gonflée par l'impétuosité du vent? Pareille à la voile que fait trembler l'impétuosité de l'esprit, ma sagesse passe sur la mer, ma sagesse sauvage. Mais vous qui êtes les serviteurs du peuple, sages illustres, comment pourriez-vous venir avec moi? Ainsi parlait Zarathoustra.